Il s'agit du plus célèbre groupe de pop du monde, deux couples qui ont fait danser la planète entière avec des tubes inoubliables, une carrière au sommet des charts sur tous les continents pendant 8 ans, de l'Eurovision à leur émouvante séparation. Comment sont-ils devenus incontournables? Sont-ils uniquement des artistes à la couleur disco? Quelle histoire se cache derrière ces quatre lettres? Bon allez, vous l'aurez compris, aujourd'hui revenons sur la carrière du groupe ABBA. Et pour l'évoquer, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Clerc, spécialiste du groupe et auteur de ce très bel ouvrage que je vais vous montrer, publié aux éditions OPA, ABBA La Totale. Bonjour Benoît.
Bonjour Gilles, merci de votre invitation.
Eh bien merci d'être avec nous pour parler de ce bel ouvrage. Alors attendez, il est lourd, hein. Voilà, toute la connaissance d'ABBA, elle est là, elle est ici, ABBA La Totale.
Et c'est un gros pavé, c'est vrai.
C'est un gros pavé, ben oui, parce que 500 et quelques pages, comment on tombe dans ABBA et comment on écrit plus de 500 pages sur ce groupe mythique?
Alors, tout comme les autres tomes de la collection, il s'agit tout d'abord de balayer toute l'histoire du groupe, mais également de raconter la genèse et les petits secrets de fabrication et d'enregistrement et de production de chacune des chansons du groupe. C'est un petit peu le principe de cette collection La Totale, aux éditions EPA, pour laquelle je travaille depuis 6 ans maintenant. Voilà. Et donc, lorsque la collection a évolué, il a été forcément question de parler d'un des plus grands groupes de pop au monde, donc ABBA. Ouais. Ça s'inscrivait parfaitement dans la continuité de la collection.
Voilà. Et puis ce livre, il est
fait avec grand plaisir.
Il est bien fait. Vous allez le voir. Comme vous le dites, il y a la genèse de chaque chanson, la réalisation, puis des photos incroyables. Voilà. Là, je vous en montre une. Allez, comme ça. Voilà, le groupe. ABBA, La Totale. Bon, ben on va revenir sur l'histoire de ce groupe, mais avant cela, vous écrivez en guise d'introduction que la musique d'ABBA est évidente, inévitable et nécessaire, qu'elle est le meilleur remède au tracas. C'est vrai, ABBA, c'est une thérapie, ça fait du bien à tout le monde.
Écoutez, pour être très sincère, je me suis senti vraiment sur un petit nuage pendant tous les mois où j'ai travaillé, pendant l'année complète sur laquelle que j'ai accordée à ABBA, on va dire.
Ouais.
Et j'ai ressenti justement cette légèreté en écoutant leur musique, bien qu'elle soit teintée d'une certaine couleur un peu sombre, hein, ça on en parlera tout à l'heure, mais qui n'est pas forcément évidente à la première écoute. Plus quand on connaît les chanteurs et enfin les personnages du groupe, mais en effet c'est quand même un groupe qui a toujours été très doué pour fournir des chansons assez
populaires
et qui populaires et joviales.
Ouais.
Vraiment du baume au cœur.
Et oui, ben on le voit tout au long de votre ouvrage et puis on va commencer là comme ça. L'histoire du groupe ABBA. J'ai noté une date parce que ce groupe est à 4 membres, Agnetha, Björn, Benny et Frida. Et j'ai noté dans votre ouvrage une date, le 5 juin 1966. C'est là où tout a commencé pour ABBA?
Alors, l'histoire d'ABBA est un petit peu complexe parce que les membres de ABBA, on va dire les hommes, pour faire très
oui.
simple, c'est-à-dire Benny et Björn, les hommes, et puis ces dames, donc Agnetha et Frida, ces hommes, donc Benny et Björn, travaillaient déjà depuis longtemps, ils étaient déjà des grandes stars, vous voyez, en Suède en tout cas, si ce n'est dans le reste du monde. Et en effet, il y a un moment où le destin les a fait se croiser, se rencontrer, écrire quelques chansons au pied d'un arbre et puis passer une soirée ensemble. C'est là qu'ils ont décidé de lancer en fait un projet ensemble qui n'était pas encore ABBA, qui était plutôt l'idée de travailler ensemble, d'écrire des chansons, ce qui s'est traduit par l'écriture de chansons pour d'autres artistes et puis également pour des musiques de films également, même des films érotiques. Donc
ouais.
ça c'est la première phase du travail en binôme entre Benny et Björn, qui par la suite justement va mener à un travail à quatre avec ces deux extraordinaires chanteuses que sont Frida et Agnetha.
Et oui, et puis vous écrivez que leur rencontre, elle était, et je crois que Benny le dit aussi, tant professionnelle que sentimentale, c'était une évidence. Et ça se confirme à Chypre où ils vont partir en vacances tous les quatre, je crois sponsorisés par une agence de voyage, ils vont donner leur premier concert non officiel. Enfin, ils étaient faits pour se rencontrer, tant sentimentalement que professionnellement, ces quatre-là.
Tout à fait. Et quand vous étudiez un petit peu l'histoire des grands groupes de musique pop, ceux qui ont perduré sont ceux qui avaient une alchimie évidente lors de leur création. Vous voyez, c'est-à-dire que les groupes comme, alors on va aller sur un autre terrain musical, mais vous voyez des groupes comme Guns N' Roses par exemple, ouais, qui est un grand groupe de hard rock, on va dire. C'est un groupe qui s'est séparé très rapidement parce que même s'ils produisaient ensemble quelque chose d'extraordinaire, l'alchimie n'était pas là, vous voyez, ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble, pour travailler ensemble et pour avoir une carrière au long cours. Des groupes comme ABBA font plus partie de la catégorie des groupes comme les Rolling Stones ou les Red Hot Chili Peppers ou Metallica, qui sont en effet des groupes qui, au bout de 40 ans, 50 ans, sont toujours là parce que vous avez une alchimie évidente dès le début entre les artistes qui le composent. Et puis, ça fonctionne. C'est-à-dire que malgré les disputes, malgré les soucis, il y a quelque chose qui fonctionne de manière évidente, vous voyez. Et c'est ce qui se passe avec eux quand ils se rencontrent.
Et rapidement, là, c'est entre tous les quatre, entre Björn et Agnetha. Agnetha, elle était déjà fiancée. Et puis, entre Benny et Frida, ça a été un coup de foudre dans un café, je crois, dans un bar dansant. C'est bien
oui,
ça
c'est ce qui est très séduisant avec l'histoire d'ABBA. C'est que, d'ailleurs, régulièrement, quand j'en parle aux gens qui ne connaissent pas bien ABBA, mais qui connaissent les chansons, mais qui ne connaissent pas l'histoire, alors on entend de tout. On entend, mais ils étaient frères et sœurs, ou alors on ne sait pas trop quoi. Bon, en fait, la réalité, elle est beaucoup plus simple que cela. Ce sont deux couples absolument extraordinaires. Donc, Benny et Agnetha, et puis, Björn et Agnetha, et Benny et Frida. Et donc, ce sont deux évidences, vous voyez, deux couple qui était fait pour se construire, également quatre amis qui étaient faits pour travailler ensemble, puisque ces deux dames s'appréciaient énormément. Enfin, il n'y avait aucune animosité, il n'y a pas eu de bagarre, vous voyez, intestine, parce que les femmes se sont battues entre elles, ou ce genre de choses caricaturales qu'on peut voir au cinéma par exemple. Non, ce sont deux couples, quatre amis et une structure qui fonctionne de manière évidente dès le début. Donc pour le projet ABBA, tout était parfait, vous voyez.
Et tout commence alors dans ce projet par une chanson, People Need Love, en 72. Et vous écrivez que cette décision d'écrire une chanson pour les filles, enfin pour tous les deux avec les filles en chorale, je parle sous votre contrôle, changera la musique pop et le cours de la musique internationale.
Oui, tout à fait. Et parce qu'au début, il faut comprendre que voilà, pendant plusieurs albums, Björn Ulvaeus, alors excusez mon accent suédois hein, qui n'est pas extraordinaire, mais Björn en tout cas va prendre le micro, va chanter beaucoup de chansons. Hein, il va y avoir pas mal de chansons d'ailleurs extraordinaires sur lesquelles il prendra le micro et qui seront interprétées par lui. Et c'est une décision, si vous voulez, qui donne un côté très démocratique au groupe. Néanmoins, le fait de choisir, parce que il y avait eu un album. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un album pour les fans, les collectionneurs, et pour les fans d'ABBA qui ne le savent pas, il y avait un album juste avant ABBA qui était sorti, qui était fait par Björn et Benny. Donc, si vous ne l'avez jamais entendu, je vous encourage à l'écouter. Il est très intéressant, mais il est en suédois. Et le style de musique n'est pas encore totalement défini. Hein, c'est un mélange de musique populaire suédoise et de
Schlager.
Pop, c'est un petit peu... Voilà, de Schlager. C'est une musique un petit peu qui se cherche, ouais, vous voyez. Mm-hmm. Et donc, quand il décide d'offrir aux deux chanteuses le lead, c'est-à-dire vraiment la voix principale, bien qu'il fasse des chœurs dessus, là, une décision très intelligente est prise et va donner la couleur à ABBA. Et quand vous entendez des artistes suédois aujourd'hui qui, évidemment, assument totalement l'héritage d'ABBA, comme par exemple First Aid Kit, qui est un groupe suédois composé de deux sœurs que j'aime beaucoup, que je vous encourage à écouter, vous pouvez entendre que ce travail sur les harmonisations de voix, par exemple, est toujours très présent dans la culture pop suédoise.
Okay.
Et c'est vraiment la signature de ABBA dès le début. Voilà.
Et donc, ils vont se réunir tous ensemble, entre guillemets. Les deux garçons vont s'associer à un parolier célèbre en Suède, Stig Andersson, qui sera, vous l'écrivez d'ailleurs, le cinquième membre du groupe ABBA. Et tiens, d'ailleurs, il y avait une citation que j'ai notée, que je trouve très jolie, de ce monsieur, de Stig Andersson. « Travailler très dur, faire de son mieux, ne rien laisser au hasard et ne pas prendre la vie trop au sérieux. » C'est ça, ABBA, finalement.
C'est exactement Abba, c'est-à-dire, ouais. Et puis surtout être fidèle, c'est-à-dire être fidèle en amitié, être fidèle professionnellement. Moi, c'est ce qui m'a énormément marqué quand j'ai travaillé sur Abba, puisque moi, j'aime beaucoup de styles de musique, donc je peux passer, j'ai écrit des livres sur d'autres artistes qui sont très différents, mais ce qui est vraiment frappant, ce qui est vraiment marquant dans la carrière de Abba, c'est cette fidélité à leur entourage professionnel, aussi bien entre eux, hein, les amis, mais leur entourage professionnel, c'est-à-dire que oui, pendant longtemps, ils travailleront avec Stig Anderson, qui est leur manager, également le coparolier sur la plupart des chansons.
Et l'éditeur, aussi, non ?
Et l'éditeur au début en tout cas, puisque après les Björn et Benny vont un petit peu reprendre les choses en main. Mais en tout cas au début, oui. Et puis également, et c'est très important, leur fidélité à leur ingénieur du son, Michael Tretto, qui vraiment va suivre la carrière du groupe et qui va créer le son Abba. Et si vous voulez, vous avez quand même peu, voire pas du tout, d'artistes qui sont restés aussi fidèles à leur technicien, à leur ingénieur du son, à leur manager pendant aussi longtemps. C'est-à-dire que vraiment, c'est un travail de famille, un travail d'équipe qui va s'entendre jusqu'à l'album Voyage 40 ans après. Ouais. Où les derniers survivants de cette équipe, de cette famille Abba, viendront participer à l'album. Donc c'est vraiment une histoire de famille, c'est important.
Tiens, oui, vous avez raison. Évoquons-le maintenant, Michael Tretto, son secret du son Abba, parce qu'il revient ce passage tout au long cette expression tout au long du livre. C'est quoi ? C'est la pièce secrète cachée derrière qui crée de la réverb ? C'est ça le son Abba ?
Alors, ce n'est pas que ça. Ça, c'est une anecdote sur quelques titres, en effet. Mais non, excusez-moi. Le son Abba créé par Mike Tretto et puis Benny et Björn, puisque ce sont eux vraiment les alchimistes du son au sein du groupe. Agnetha et Frida sont plutôt vraiment celles qui mettent qui donnent l'esthétique, qui donnent vraiment la couleur finale au niveau de la voix. Mais le son derrière, les instruments, ce sont vraiment les trois hommes que je viens de citer. Mm-hmm. Le son Michael Tretto, il est difficilement explicable, parce qu'un ingénieur du son, si vous voulez, si vous demandez à des grands ingénieurs du son, puisqu'il était ingénieur du son, il n'était pas producteur du disque, hein, il était ingénieur du son sur tous les albums, c'est juste une maîtrise parfaite de son équipement. Donc au début, de plusieurs studios, quand il passait d'un studio à l'autre, ce qui crée une différence de son entre les albums, c'est très important. Et ensuite au Polar Studio, quand ils auront leur propre studio, où là vous allez avoir une homogénéisation du son sur les derniers albums. Et puis, une connaissance parfaite des voix de Agnetha et de Frida, c'est-à-dire comment les gérer, comment bien travailler la superposition des voix avec les harmonisations, hein, qui est vraiment la signature, je le répète, de Abba. Et puis également, une façon de mettre la voix en avant, de donner à la musique qui est derrière les voix un côté pas agressif, vous voyez, pour qu'il puisse passer un petit peu partout, qu'il puisse passer à la radio. Puisque c'était quand même le souhait de Abba. Il ne faut quand même pas oublier que c'est un vrai groupe de musique, mais un groupe qui souhaitait
s'exporter partout dans le monde. C'est pour ça qu'ils avaient une obsession pour l'Eurovision, vous l'écrivez dans le livre, puisqu'ils testent en 72, enfin une obsession, ça c'est mon terme, mais ils testent en 72 une première fois avec Ring Ring. D'ailleurs, l'album sortira en janvier 73, et ils retentent l'année prochaine, l'année suivante, avec Waterloo.
Absolument.
Cette chanson, d'ailleurs, on va l'écouter juste après, elle a changé la face du monde aussi, Waterloo, la face du monde musicale.
Tout à fait. On peut estimer, alors moi je dis ça de mon petit pays, la France, mais on peut estimer qu'il y a quand même peu de chansons étant passées à l'Eurovision, qu'elles aient gagné ou pas, hein, qui soient restées vraiment dans l'histoire de la musique pop. Waterloo en fait partie. Mais pour en revenir juste à l'Eurovision, ce que vous disiez très justement, oui, il y a quelque part une obsession de l'Eurovision pour Benny notamment, qui travaille vraiment à la musique, alors que Björn est plus lui sur les paroles. Il explique bien, Benny Andersson, il explique que quand on est en Suède, on n'est pas en Grande-Bretagne dans les années 60-70, on est en Suède, hein. On est loin du marché du disque anglo-saxon, et la seule solution pour percer et pour se faire connaître, même si ce n'est auprès du monde entier, mais au moins dans le reste de l'Europe, c'est gagner l'Eurovision, ou alors en tout cas participer à l'Eurovision, vous voyez, c'est-à-dire gagner la première phase
et se faire opérer, ouais.
et se faire repérer. Néanmoins, ce qui est intéressant, donc ils ont essayé en effet plusieurs fois, ils ont écrit pour d'autres qui passaient à l'Eurovision. Enfin, vraiment, comme vous le disiez justement, ils étaient vraiment obsédés par l'Eurovision. Mais la chanson Ring Ring, personnellement, moi, je l'adore. Je trouve que ça aurait été une réussite de, enfin, comment dire, ça aurait été bien qu'elle aille au bout du concours parce que c'était vraiment une très bonne chanson. Et d'ailleurs, le premier album de ABBA est, à mon avis, un des meilleurs. Donc,
voilà. D'accord. Bah, ça, c'est intéressant pour la suite. On y reviendra sur tous ces albums qui, ouais, à la fois, se ressemblent par le groupe qui teste des styles musicaux, mais à la fois divergent, surtout à la fin, notamment avec Super Trooper. Donc, cette chanson Waterloo, on en passe un court extrait et on en discute juste après.
D'accord.
Voilà, juste pour vous remettre à l'esprit, oui, Waterloo d'ABBA, cette chanson devait s'appeler, alors vous m'en parlerez, Oni Pai. C'est ça, c'est Oni Pai à la base.
Oui, oui, tout à fait, okay, tout à fait.
Ouais. Mmh. Et, il gagne le concours de l'Eurovision, succès planétaire, mais pourtant, on commence à comprendre ce que va devenir ABBA dans les relations au sein du groupe. Ils font des promos, ils font des plateaux de télé, ils sont loin de la Suède. Leur fille de Björn et d'Agnetha ne les reconnaît pas en rentrant. Ils annulent à cause de ça la tournée 74. Enfin, voilà, c'est vraiment une opposition entre leur vie, leur carrière professionnelle et leur carrière personnelle. Et leur vie personnelle, pardon. Et on reproche aussi à cet album d'avoir des influences trop diverses. On parle de reggae, on parle de Schlager. Bref, c'était pas gagné d'avance après le succès de Waterloo, cette popularité.
Non, c'était pas gagné d'avance. Et comme vous le disiez justement, donc ils ont des petits soucis pour assumer la promotion de leur succès à l'Eurovision jusqu'au bout, parce qu'en effet, ils estiment que leur priorité. Et ça, c'est l'esprit. Alors ça, c'est très important parce que c'est l'esprit, entre guillemets, hein, l'esprit suédois. C'est-à-dire que, vous voyez, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller dans ce magnifique pays, mais c'est
un pays. À l'automne, oui.
voilà. C'est un pays où on fait vraiment, dans la culture suédoise, il est important de faire passer en priorité sa famille, ses enfants, ses amis, avant le travail, avant les. Voilà, enfin, la plupart des gens rentrent tôt chez eux pour être avec leurs enfants. C'est très important. Ça fait partie de la culture. Et ça, c'est très important dans l'histoire de ABBA parce que. Ça va être une chose qui va les freiner dans le développement du groupe à l'international, notamment quand il va s'agir de faire des concerts
en Australie,
à travers le monde,
au Japon,
voilà, en Australie, Japon, Amérique. Ça va être très compliqué parce que surtout Agnetha refusera de s'absenter trop longtemps. Elle refusera de. Bon, évidemment, elle aura des problèmes aussi avec sa notoriété, les paparazzis, ce genre de choses. Mais elle ne voudra pas être éloignée de ses enfants trop longtemps.
Et elle a peur de l'avion aussi. Et puis les critiques, ils sont sévères. On dit que c'est le plus beau postérieur, je crois, de la chanson suédoise.
Oui, alors ça, c'est un sexisme incroyable. C'est-à-dire que vraiment, c'est assez délétère. C'est-à-dire que vraiment, mais bon, si vous travaillez sur. Enfin, si vous étudiez un petit peu la carrière d'une chanteuse comme Madonna aux États-Unis, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des critiques, des journalistes qui ne vont parler que du physique, de ce genre de choses. Et c'était ce que subissait Agnetha. C'est-à-dire qu'on l'appelait le plus beau postérieur du show business.
Du show business.
Bon, ouais, c'est-à-dire que vraiment c'est triste, quoi, vous voyez. Donc du coup ils ont décidé, et en ça ils sont très proches de leurs idoles, les Beatles, hein, c'est-à-dire qu'ils ont rapidement décidé d'être un groupe de studio plus qu'un groupe de scène. Et ça, c'est très très important, peut-être qu'on en parlera par la suite, mais ça va définir également l'évolution du groupe. Voilà.
Et l'évolution des groupes qui sera positif. Alors, positive, je monte à nos amis qui nous regardent. Voilà, ça, c'est l'album Waterloo. Et puis, ils vont pas se reposer sur leur laurier, nos chers Benny et Björn, puisque l'année suivante, ils ne veulent pas être le groupe d'un tube. Et ils vont se mettre au travail pour sortir leur troisième album studio. Allez, je vous le montre aussi. Il est là. Quelle magnifique pochette, tous les quatre dans la voiture. Et proposer le 21 avril 75, deux titres entre autres, avec des chansons très très pop comme SOS ou Mamma Mia. L'objectif était quoi dans cet album? Il était de se détacher du groupe sympathique suédois un peu schlager et d'embrasser le mouvement pop. Quel était l'objectif de ce troisième album?
Alors, on va dire que c'est une étape supplémentaire,
ouais,
pour aller vers justement la popisation, non, je rigole, de leur musique, non, mais l'aspect très pop de leur musique. C'est-à-dire qu'en effet, ils ont bien compris qu'il y a un problème par rapport à l'aspect homogène de leur musique. Elle n'est pas du tout homogène, elle n'est pas très claire, en fait, leur direction artistique, puisqu'ils sont quand même encore attachés à leurs racines schlager. Donc le schlager, cette musique très populaire qui vient un peu d'Allemagne, un peu de partout en Europe. Et puis, ils écoutent beaucoup de rock, alors ils ont du mal, comme disent les producteurs, ils ont du mal à digérer leurs influences. Vous voyez, c'est-à-dire que ils sont encore attachés aux productions de Spector. Ils sont donc des chansons comme Dadoo Round Round, ce genre de choses. Vous voyez, les Beach Boys, ils ont du mal à se détacher de la musique des Beatles. Et en même temps, ils aiment bien la pop très simple, la pop qui s'approche un petit peu de la disco, mais enfin du disco. Mais bon, c'est pas clair, vous voyez. Et quand vous écoutez l'album, donc ABBA, l'album dont vous êtes en train de parler, où ils sont assis dans une voiture. Vous avez des chansons qui sont des purs produits ABBA, donc Mamma Mia, SOS, mais vous avez encore des morceaux un peu rock comme Rock Me, un peu funk comme Man in the Middle. Alors,
Tropical Love Land aussi. Encore reggae.
Tropical Love Land. Encore reggae, vous avez vraiment de tout sur cet album. C'est un peu un fourre-tout, franchement. Même si c'est un très bon disque, ce n'est pas encore le son ABBA. Vous voyez, c'est pas très clair, en fait. Vous voyez,
intermezzo.
Il va falloir attendre encore un petit peu. Voilà, intermezzo number one. Alors là, on est sur un morceau instrumental qui est génial, hein, bien sûr, mais on se demande bien ce qu'il vient faire là. Clairement, ça fait un peu générique de série.
Tout à fait.
Oui, c'est ça, on se croirait un peu dans Château Vallon, ce genre de choses, mais c'est bien, hein, c'est très intéressant, puisque Benny et Björn ont un talent absolument dingue, mais ils n'arrivent pas encore à le mettre au service d'un répertoire cohérent, on va dire.
Et il parle de... Benny dit qu'il souhaite conquérir les USA, ils disent qu'ils veulent faire de la musique pour le plus grand nombre, mais derrière tout ça, derrière Mamma Mia qui fonctionnera très bien aux USA, c'est ça l'objectif, c'est d'être numéro un aux États-Unis.
Exactement. Alors, vous avez la plupart des groupes, qu'ils soient anglo-saxons ou suédois, mais en chantant en anglais, en tout cas anglophone, vous avez cette volonté à l'époque, puisque vous avez Queen en Grande-Bretagne qui vit exactement la même chose au même moment. C'est-à-dire que leur but, c'est de conquérir les États-Unis, de chercher la bonne recette pour conquérir les États-Unis. Quant à ABBA, également, ils veulent conquérir les États-Unis et pour ça, il faut qu'ils arrivent à trouver la recette parfaite. Une chanson, un tube ne suffit pas, puisque une nouveauté en chasse une autre, vous voyez. Et donc, il faut absolument que le groupe puisse produire un album qui soit complet et qui soit cohérent. Pour ça, il va falloir attendre l'album suivant.
Ah bah, on y vient à l'album suivant. On s'écoute un petit extrait d'SOS, parce que je trouve que c'est une chanson magnifique et peut-être une de mes préférées d'ABBA. Je pourrais dire ça beaucoup, hein.
D'accord.
Voilà, très court extrait de SOS. Le guitariste des Who, Petey, alors Townsend, dira qu'il s'agit de la meilleure chanson pop de tous les temps. On peut être que d'accord avec lui. C'est incroyable, cette rythmique dans SOS.
Alors, c'est incroyable. Et puis, c'est une chanson absolument sublime. Ce qui est intéressant dans cette chanson, et là, ça commence à définir vraiment les contours du son ABBA, justement, c'est ce qu'on disait, et pas que du son, hein, de la façon d'écrire aussi, c'est-à-dire que vous avez ces refrains qui sont joyeux, entre guillemets,
ouais,
et ces couplets qui sont extrêmement sombres, en fait. Et ça, c'est très important, et les gens l'ignorent souvent, puisque les gens connaissent souvent les compilations avec les gros tubes qu'on met en soirée pour danser, mais Benny l'explique très justement, il explique qu'il y a... alors, je vais essayer de ne pas trahir sa citation exacte, mais enfin, de pas dire de bêtises, mais il explique qu'il y a une espèce de ceinture de la dépression, en fait, qui traverse la Scandinavie. Comme
voilà,
ça.
La ceinture de la mélancolie, j'allais vous en parler.
Voilà, Exactement, la ceinture de la mélancolie, c'est ça. Et donc la ceinture de la mélancolie, elle traverse comme ça la Scandinavie et puis d'autres pays d'Europe, elle donne aux artistes de ces pays-là, justement, à leur musique, une certaine mélancolie, quelque chose d'assez sombre qu'on a du mal à définir, même encore aujourd'hui, hein, puisque voilà, ce n'est pas clair, mais lui, il explique de cette façon-là, et ça s'entend vraiment dans les chansons de Abba, puisque vous avez régulièrement des couplets très mélancoliques, très sombres, et SOS en fait partie. Voilà, je ne sais pas si vous aurez la même.
Et je suis bien d'accord avec vous, on peut danser sur SOS. Il y a une autre, Knowing Me, Knowing You, tout, on en parlera tout à l'heure, c'est pareil, c'est joyeux, mais c'est quand même un peu triste. Hein.
Absolument, et encore, il faut réaliser qu'à cette époque, ils sont heureux en couple, oui, heureux dans le groupe, que tout fonctionne. Alors imaginez ce qui va se passer par la suite.
Je montre à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent, je peux que vous conseiller l'album d'Agnetha. Alors, je ne sais pas si vous le voyez avec le reflet. En cette même période, Agnetha Falstog, Elva, Nivor, Eat Us. Bon, vous voyez la pochette. Allez l'écouter. Il y a SOS en version suédoise, ce qui est d'ailleurs étonnant. Allez, tiens, je me suis dit, je lui demande, pourquoi Agnetha continue à enregistrer des albums solo dans cette période? Et Frida aussi, je crois.
Absolument. Non, absolument. Et puis ça sera pas de manière régulière. Vous voyez, la fréquence sera un petit peu perturbée, mais elles vont continuer à faire des albums même dans les années 80 pendant une période.
Oui.
Ça perdurera. Et donc pourquoi elle continue? Eh bien, tout simplement parce que elle décide rapidement. Agnetha, qui elle écrivait des chansons sublimes, hein, sur le tout premier album de Abba, il y a une
des illusions. C'est ça?
Oui, qui est signée de Agnetha, et c'est la seule chanson signée uniquement d'Agnetha au niveau de la musique. Mmh. Et elle a décidé, qui est d'ailleurs une magnifique chanson.
Très très jolie, oui.
Très belle chanson, et elle a décidé rapidement de laisser la place à Benny et Björn uniquement pour que le groupe justement puisse mettre toutes les chances de son côté. Et donc elle, de son côté, continue, toujours avec le même ingénieur du son, avec les mêmes musiciens d'Abba. Elle continue à faire des albums et par contre en suédois, toujours fidèle. On parlait de fidélité, hein, fidélité au pays, fidélité à sa langue maternelle, fidélité aux musiciens, hein, qui sont les mêmes que les musiciens d'Abba. Enfin, et donc voilà, pour eux, c'est naturel de continuer à enregistrer d'autres disques à côté. Et d'ailleurs, vous avez même à la même époque les musiciens de Abba, ça c'est rigolo, et je vous encourage vraiment, je vous pousse à l'écouter. Les musiciens de Abba, à la même époque, décident d'enregistrer un album country de reprises de Abba.
Ah oui, voilà. Vous en parlez dans le livre.
Exactement, ça s'appelle Nashville Train, et c'est Abba Our Way, je crois, par le nom de l'album, et ce sont que des chansons de Abba jouées par les musiciens de Abba en version country et chantées en anglais.
D'accord.
C'est vraiment, ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Je vous conseille d'écouter ça. Donc tout ça pour dire vraiment, toujours voilà, continuer à produire, à écrire pour d'autres, faire ses albums personnels en marge de Abba.
Et puis, alors là, on vient à un gros morceau. Hein, on pourrait parler des heures des albums d'Abba et puis même les premiers albums d'Agnetha, mais on va passer à la chanson la plus connue. Je crois qu'elle va bientôt enregistrer plus d'un milliard de vues sur YouTube. Le 16 août 1976, Abba devient légendaire. Hein, avec une chanson, racontez-moi, parce que l'histoire, elle est truculente. Björn en pleine nuit, à la cassette à la main, pour faire écouter ce tube qui devait s'appeler Boogaloo à la base, c'est bien ça?
Oui, le groupe, alors là, nous sommes en 1976, et là, l'air disco bat son plein. Elle débute en réalité en 75, hein, la période disco, avec des producteurs comme Giorgio Moroder, l'Italien immigré en Allemagne, et qui produit à tour de bras les meilleurs titres disco, notamment ceux de Donna Summer. Et puis, en Amérique, une scène aussi qui se crée, aux États-Unis, pardon, une scène qui se crée, notamment en Floride, où vous avez de nombreux groupes qui proposent des titres disco.
Ouais.
Et en effet, Björn et Benny, qui sont toujours à la pointe de. Enfin, qui sont toujours. qui sont toujours à l'écoute de ce qui sort et qui sont en veille permanente par rapport aux nouveautés, toujours prêts à essayer de nouveaux styles de musique, eh bien vont découvrir en effet cette chanson disco qui va les influencer et qui vont vouloir réinterpréter un peu à leur sauce. Et puis ils vont l'appeler Boogaloo au début parce que le Boogaloo c'est une danse, un style de musique, c'est quelque chose d'un petit peu insaisissable, mais qui c'est un peu comme l'Americana dans la folk américaine, vous voyez, c'est quelque chose qui représente une couleur artistique. Et donc en fait ils produisent ce titre qui va devenir donc Dancing Queen. Et tout de suite, tous les quatre sont conscients du potentiel de la chanson, traversent la ville pour aller se passer la cassette, mais il est très tard. Enfin, là, je vous encourage à lire cette séquence dans le livre, parce qu'en effet, ça se lit un peu comme un thriller, parce qu'ils sont là, vraiment, ils produisent ça, et puis tout de suite, ils se disent « Ah oh là là, on a un tube, alors ils vont les faire écouter à l'un à l'autre. » Enfin, c'est vraiment toute une histoire. Et en effet, ils entrent dans la légende avec cette chanson, et en même temps, c'est quand même un petit, c'est un peu une prison dorée, Dancing Queen.
Eh oui, ça sonne la pente descendante de leur union en tout cas déjà.
Oui, et puis j'entendais par là le fait qu'ils seront assimilés à jamais à un groupe disco à cause de cette chanson, puisque c'est vraiment la chanson disco. Par excellence, avec le rythme droit à la batterie, et puis la couleur, le clip avec les lumières, où ça danse. Bon, c'est vraiment le titre disco. On est en 76, où vraiment le disco est au top de sa gloire. Donc, la réalité, c'est qu'à base, c'est plus complexe que Dancing Queen, vous voyez, et ça, on en parlera sûrement ensuite. Il y a beaucoup plus de couleurs dans leur répertoire, beaucoup plus ils ont beaucoup plus de cordes à leur arc, et donc, du coup, Dancing Queen sera un petit peu la prison dorée du groupe, même si elle leur apportera le succès international.
Eh bien, on en écoute un petit extrait. Voilà, Dancing Queen d'ABBA, c'est le tube qu'on connaît par cœur, on a tous dansé dessus. Ça fait du groupe ABBA un groupe de légende. Pour ceux qui ne le savent pas, j'y pensais. ABBA, d'où vient ses initiales? On ne l'a pas évoqué, ça, tiens.
Eh ben voilà, ce sont les initiales des membres du groupe. Alors, vous me direz, mais il n'y a pas le F de Frida.
Voilà.
Eh bien non, puisque c'est l'initiale de son vrai prénom, donc du coup. Et en fait, ce qui est rigolo, parce que Frida étant son surnom, et c'est Annie Fried, hein, son vrai prénom. Et du coup, ce qui est amusant, c'est que ABBA, initialement, c'était le nom d'une marque de poissons en boîte de conserve en Suède. Et en fait, quand ils ont cherché un nom plus simple, puisque leur premier album n'est pas signé de ABBA, il est signé de leurs quatre prénoms. Et Ring Ring, l'album dont nous parlons tout à l'heure. Et quand ils décident, après le premier album, de trouver une solution, après le deuxième album en réalité, parce que selon les pressages, vous avez certains pressages du deuxième album qui comportent aussi les prénoms. Et après, les rééditions il y aura indiqué ABBA dessus. Et en fait, quand ils décident de trouver un nom plus facilement mémorisable, surtout pour le public étranger, le public américain notamment, eh bien, ils décident de prendre les initiales de leur prénom et de s'appeler ABBA. Et donc, ils vont demander l'autorisation à cette entreprise de conditionnement de nourriture, et puis qui leur donnera leur accord. Voilà, ce sera une sacrée histoire. Et ABBA, en effet, ça sonne bien. Et en plus de ça, visuellement,
c'est identifiable.
C'est identifiable, exactement.
À condition de ne pas les décevoir, de ne pas faire tort à la marque, de ne pas les décevoir. Et je crois que Agnetha a répondu que c'était sur ce point-là, ils n'avaient pas trop échoué.
Exactement.
Après Dancing Queen, qui est peut-être une prison dorée pour ABBA, ils vont devoir se remettre en question. Et donc, garder la place de numéro 1, entre guillemets, qu'ils ont atteint. C'est des superstars. En Australie, ils sont fans d'ABBA. En Angleterre, ils sont en tête des charts. Ils vont sortir un autre album. Et c'est là où ça va être un peu la douche froide. puisque, à part, si on enlève deux chansons qui ont connu un succès. Il n'y a pas de vrai tube. Il y a deux chansons, Eagle, qui est très rock, et Thank You for the Music, qui sera utilisée d'ailleurs pour la comédie musicale. Le seul succès de ce prochain album, qui est, je crois, derrière moi, là, ça a été Take a Chance on Me. Alors, bien sûr, ça marche encore à fond, mais ce n'est pas pareil. Malgré ce succès, est-ce qu'on peut dire que cet album, ABBA, je crois, j'ai oublié le nom, ABBA The Album, montre véritablement tout le génie créatif de Benny et Björn?
Tout à fait. Alors, en ce qui me concerne, c'est le chef-d'œuvre de ABBA.
D'accord.
C'est-à-dire que là, nous sommes sur un disque, en effet, qui n'a pas forcément, qui ne l'aura pas forcément, enfin, qui leur a permis quand même de poursuivre leur route, surtout en Australie, où l'album a vraiment rencontré un succès incroyable. Parce qu'il faut comprendre que voilà, comme Queen était superstar au Japon, ABBA était superstar en Australie. Mmh. Vous avez des pays comme ça, hein, on dit que nul n'est prophète en son pays, mais c'est exactement le cas de ABBA. Et donc, cet album, ABBA The Album, donc, a fait un carton en Australie, dans d'autres pays, même, d'ailleurs, a très bien marché en Amérique, aux États-Unis. Mais, en effet, ce n'est pas un album facile d'accès. C'est-à-dire que vous avez des chansons, vous avez trois chansons qui sont issues d'une comédie musicale que Björn et Benny avaient commencé à écrire, et puis finalement, ils vont se rendre compte que... C'était des chansons d'ailleurs qui étaient jouées lors de la tournée précédente à la sortie de l'album, et ils se rendaient bien compte que les gens n'adhéraient pas, ne comprenaient pas trop ce qui se passait dans cette petite comédie musicale, et donc ils vont quand même enregistrer les chansons, les placer sur le disque, mais en effet, les gens vont avoir du mal, une fois encore, comme au tout début de la carrière du groupe, vont avoir du mal à identifier vraiment le groupe et à retrouver l'aspect disco de Dancing Queen.
Ouais.
Néanmoins, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, je vous encourage à écouter cet
bien
album
sûr.
Qui est absolument incroyable, notamment pour sa production. Le son est d'une clarté, vraiment, le son est parfait, il est limpide, il est assez puissant, et il y a des chansons. C'est une vraie réussite au niveau de la production. Vous avez des chansons, évidemment, vous avez Take a Chance on Me qui est un tube, mais vous avez des chansons comme The Name of the Game, et puis Thank You for the Music aussi, même I Wonder de Departure. Ce sont des chansons vraiment qui sont sublimes. Il faut vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, il faut l'écouter attentivement.
Et après cet album, ils vont continuer dans cette ère disco, ils vont revenir à des chansons plus faciles d'accès. Je le montre devant, voilà, Voulez-vous, tout le monde adore cette chanson. Il y aura aussi Gimme Gimme, enfin, vous allez me dire un mot d'ailleurs sur Gimme Gimme juste après. À cette période-là, ABBA est en repositionnement et les relations entre Björn et Agnetha commencent à se... détérioré. Trop de pression, trop de tournées, trop de manque des enfants, on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que avec Voulez-vous, ils vont retrouver une âme de couple, enfin, ils vont repartir à nouveau, je crois qu'il va avoir un autre petit enfant à cette période-là, ou est-ce que véritablement, après le grand succès de Harry Vol et de Dancing Queen, cela marque la fin d'un des deux couples de ABBA?
Oui, et alors c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en effet, le couple Björn Agnetha va se
déliter.
Se déliter. Je vous remercie. Et puis, mais ça n'a pas de lien avec l'évolution du groupe. C'est vraiment un délitement qui est lié, voilà, à la fin de leur histoire, à des incompréhensions de couple, voilà, des choses comme ça. Le groupe, lui, reste solide à cette époque, et il reste solide notamment parce que l'album Voulez-vous rencontre un succès incroyable à travers le monde. Alors donc c'est l'album le plus disco du groupe.
Hein, ouais.
C'est bien une carte de visite disco que ABBA peut distribuer, c'est bien celle-là. C'est vraiment vraiment l'album le plus disco. La couleur est totalement disco.
Avec Chiquitita.
Oui, voilà, ça c'est du ABBA tout craché.
Voilà, toujours.
Il décide de faire un album disco à 100%, et en fait il ne l'est pas à 100% puisqu'ils vont venir mettre une chanson qui n'a rien à voir. Avec l'esthétique générale de l'album, et ça pose problème, si vous voulez. Ça pose problème parce que les gens ont du mal à définir vraiment ce qu'est ABBA, et en même temps c'est ce qui fait leur richesse, mais ça peut leur poser problème au niveau de la presse, au niveau du public parfois, mais c'est ce qui crée la richesse du groupe. Donc cet album Voulez-vous, il est très disco, et là on peut dire que vraiment ABBA est dans sa période disco. Et ils vont faire une tournée par la suite, donc en 1979 ils vont faire une tournée après cet album,
voilà,
qui va être pareil, dans l'esprit disco, des grandes salles, des tenues bleues.
Wembley,
scène, enfin,
je l'ai là pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, le Wembley Arena, quel album, quel live et quelle émotion aussi. Tiens, j'en profite, quand Agnetha chante I'm Still Alive, ils sont séparés et elle chante cette chanson avec d'une tendresse et d'une émotion rare.
Tout à fait. Et donc cette chanson, par exemple, c'est une des rares chansons qui n'est sur, qui est jouée en concert mais qui n'est sur aucun album. Ouais. Elle a été donc écrite par Agnetha et ils l'ont tous exhorté à la chanter sur scène. Et donc elle la joue en piano voix sur scène en parlant justement de sa reconstruction personnelle après sa séparation. Avec Björn. Donc voilà, on en revient toujours à l'histoire des deux couples qui infuse vraiment la musique du groupe et qui va être de plus en plus présente dans les derniers albums du groupe, qui va donner vraiment cette espèce de, ce qui va mettre une espèce de chape de plomb, vous voyez, sur la
mais
sur
il s'en est toujours défendu. Björn et Benny se sont toujours défendus. En lisant votre ouvrage, vous le remarquerez à chaque fois, ils ont toujours dit c'est pas nous, on ne raconte pas nos vies.
Oui, mais c'est faux. C'est-à-dire que tous les observateurs, tous les fans du groupe pourront vous dire qu'en réalité, ils disaient quand ils sortaient un album que les chansons, on en parlera sur l'album suivant, que les chansons ne parlaient pas de leur histoire. Et en fait, avec les années, ils ont fini par l'avouer à chaque fois que ça parlait de leur histoire. Et donc, en fait, moi, en tant qu'auteur de ce livre, eh bien, j'avais suffisamment de recul suffisant avec les interviews jusqu'à aujourd'hui pour justement remettre un petit peu les pendules à l'heure et rétablir un peu la vérité à partir de leurs citations à eux. Et donc, en effet, on va le voir sur l'album suivant. Je vous laisse la primeur de la présentation de l'album suivant. Et c'est vraiment un album qui ne parle que de leur histoire personnelle.
Alors, on écoute juste I'm Still Alive pour que vous la découvriez. Et après, on parle du plus célèbre projecteur de la pop musique. Voilà, c'est juste un tout petit extrait hein, pour que ça vous donne envie d'aller l'écouter. Quelle voix, quelle clarté dans la voix d'Agnetha que l'on retrouvera en 1980 ou 81. J'espère que vous allez m'aider avec l'album Super Trooper. Et c'est là où on voit l'album le plus triste d'Abba, mais qui est à la fois l'un des plus beaux. Et vu que le temps nous presse, on va parler de The Winner Takes It All. Vous dites d'ailleurs que c'est la plus célèbre et la plus belle chanson d'Abba. Alors, est-ce que c'est selon vous ou selon les fans ?
Non, selon moi, je pense qu'elle est bien plus connue que Dancing Queen. Je pense qu'elle a marqué les esprits bien plus que Dancing Queen parce que elle, non seulement elle donne envie de danser et en même temps elle est d'une tristesse infinie. Elle raconte clairement la séparation de Agnetha avec Björn et puis surtout sa reconstruction personnelle, la détresse dans laquelle sont les deux artistes suite à leur séparation. C'est une chanson d'une tristesse incroyable et qui aujourd'hui n'a pas pris une ride. Hein, vous l'entendez, elle a été reprise par Clara Luciani. Clara Luciani a repris la version
Mireille Mathieu.
Ouais. Voilà. Et c'est une chanson qui est vraiment magnifique, vraiment magnifique.
Quelle belle chanson. Donc pour vous, oui, c'est le plus beau tube d'Abba et pour tous les fans. Parce que je crois qu'on a été coupé légèrement le début de votre phrase.
Oui, c'est sans doute la chanson la plus célèbre, en tout cas auprès des fans et qui la portent dans leur cœur. Ce n'est pas moi ma chanson préférée parce qu'il y en a tellement
d'accord.
De choses extraordinaires. Et notamment sur ce disque, hein, il y a d'autres chansons vraiment exceptionnelles.
Ah oui, Happy New Year. Quelle belle manière de terminer justement cette histoire, enfin leur histoire d'Abba, puisque ils parlent de décennies qui changent, le monde change, tout change. On voit le clip qui est incroyable de Happy New Year, enfin incroyable. Je m'entends avec Agnetha, la tête toute triste face à Benny de dos à la fenêtre. C'est là aussi du Abba tout craché où ils parlent de leur vie. Maintenant, je peux le dire grâce à vous, ils parlent de leur histoire d'amour dans cet album.
Absolument, absolument. Ils se mettent en scène. Ils se mettent en scène et c'est une façon de toucher aussi leur public et de toucher voilà au cœur leur public et de donner à leur public la sensation qu'il y a une proximité si vous voulez entre les fans et les artistes, quelque chose de très fort. C'était les premiers à faire ça finalement. Donc en fait ça fonctionne très bien. Les gens ont vraiment la sensation de faire partie du groupe et d'être à leur côté.
Tiens, et avant d'évoquer, on va sauter le temps malheureusement nous presse, on va sauter l'album The Visitor. Hein, mais avant de conclure et de parler des années 90 à 2020 d'abord, le clip de The Winner Takes It All. C'est quand même marrant. Les deux, Agnetha et Björn, ont ramené leurs copains sur le clip pendant qu'Agnetha et Björn jouaient la comédie. C'est incroyable.
Et c'est un petit peu, si vous voulez, quand vous voyez la façon dont fonctionnent Agnetha et Björn à l'époque, c'est un peu, on a un peu l'impression de découvrir les chansons de Michel Berger et de Véronique Sanson qui se séparer et qui continuent d'ailleurs à peu près quelques années auparavant, hein, il n'y a pas une grosse différence dans la période, qui continuent à s'écrire des chansons
Seras-tu là
interposé.
Ouais.
Voilà, donc ça a duré des années. Et là, c'est un peu la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'en effet, ils sont présents et pourtant, ils mettent en scène leur séparation. Alors, je n'aurais pas aimé être à la place de leur conjoint à l'époque, ça devait être un petit peu difficile. Néanmoins, Björn, par exemple, est resté très 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 longtemps avec son épouse. En fait, il n'y a pas de problème. C'est juste.
Et en plus, ça l'a blessé, Agnetha, que Björn se remette si vite avec une compagne, alors qu'elle, elle était dans son chagrin d'amour.
Absolument, mais cela a fonctionné, hein, puisque plusieurs décennies plus tard, ils étaient toujours ensemble. Donc ce n'était pas un coureur de jupons, Björn. C'était juste qu'il avait besoin, il le disait, il ne pouvait pas être seul, il avait besoin d'une âme sœur près de lui pour vivre. Voilà.
Et on va dire que c'est leur histoire. Tiens, je m'étais noté une question un peu, peut-être un peu dure sur leur dernier album The Visitor, puisqu'on voit que les premiers EP qui sortent ne marchent pas, ne fonctionnent pas. L'ambiance est terrible dans le studio, ça vous pourrez le lire dans le livre. Il y a quand même de belles chansons, attention, dans cet album. J'avais envie de vous poser la question, mais alors pourquoi The Visitors, pourquoi ce 8e album studio finalement? Si tout allait mal.
Tout allait mal, mais je pense qu'ils se sont rendus compte que tout allait mal pendant l'enregistrement et la machine était lancée. Et au final, c'est un album qui est le chant du cygne du groupe, même si le groupe ne se séparera pas, hein, on en parlera après. C'est vraiment l'album qui est le chant du cygne du groupe et ça se ressent. Et je pense que c'est un album qui est indispensable pour les fans parce qu'il met un point final à une histoire, à une carrière. On sent les tensions. C'est un album aussi qui est marqué par les tensions géopolitiques à l'époque.
Hein, oui, ils avaient peur, les deux. Ils avaient très peur, Benny et Björn. Il parlera même à la télévision polonaise. Enfin, ça fera scandale. Oui, ça, c'est bien expliqué dans le livre.
Oui, c'est important. C'est pour ça que c'est un album qui est vraiment un album très, très sombre et qui n'a pas rencontré un grand succès, malgré sa quantité de chansons extraordinaires. Hein. C'est un album qu'il faut découvrir, mais qui est très, très obscur, très sombre. Vous avez des chansons pour leurs enfants, des comptines. Hein. Vous avez des chansons pour leur petite fille qui va à l'école le matin. Il y a vraiment chaque chanson.
Quand tu me glisses entre les doigts, comment elle s'appelle?
Voilà, c'est ça. Sleeping Through My Finger.
Voilà, c'est une magnifique chanson. Ouais.
Voilà. Et en fait, il est toujours question de quelqu'un qui part, de quelque chose qui nous échappe, de soit l'amour, soit l'enfant qui grandit. Et puis également, Anni-Frid, donc Frida, commence à
se séparer.
N'est plus une jeune femme de. Ben, n'est plus une. Oui, puis elle n'est plus une. Oui, alors évidemment, leur couple se sépare, mais leur couple se divise. Mais et également, Frida prend de l'âge, comme c'est tout à fait normal, elle n'a plus 20 ans, et elle voit qu'elle a en concurrence. Qu'elle est en concurrence avec des jeunes artistes de 20 ans, voilà, de 18 ans qui arrivent. Et une chanson comme le single Head Over Heels, par exemple, qui est le premier single de l'album, ne fait qu'amplifier cet écart entre elle et puis la nouvelle génération, puisqu'on la voit qui s'habille. Enfin, il y a un côté un petit peu ringard, hélas, dans leur musique à ce moment-là, qui leur coûtera vraiment.
Ce que j'allais vous demander, pourquoi ils étaient considérés comme ringards, ce groupe qui n'est pas séparé et qui est mis en veille? Quelque chose d'important d'ailleurs.
Eh bien, pourquoi? Parce que c'est une période où les changements dans l'industrie musicale sont extrêmement rapides. Vous avez la disco, la musique disco qui s'arrête net en 1979 et qui est détestée du monde entier du jour au lendemain. Vous avez le punk qui arrive
à
écraser cette musique joviale disco. Alors que ABBA, eux, sont encore considérés comme vraiment les rois de la disco, enfin de la musique disco. Vous avez la synth-pop, donc, qui est revendiquée par des artistes comme Prince, qui arrive à grands pas. Vous avez Michael Jackson qui essaye, et c'est pas un jeu de mots, de faire le grand écart, justement, entre l'aspect disco de Off the Wall et l'aspect synth-pop de Thriller. Donc, c'est vraiment une période où il faut vraiment, il faut marcher sur des œufs si on veut pas perdre son public, vous voyez. Et ABBA n'ont pas réussi à marcher sur des œufs pour ne pas perdre leur public.
Mais en 92, miracle!
En 92, après une sévère traversée du désert, mais même si le groupe s'est mis en veille, donc le groupe n'a pas traversé le désert, c'est plutôt les deux chanteuses qui n'ont pas réussi à vraiment continuer leur carrière. Mais en 92, voilà, grâce à des films
Gold.
Qui utiliseront la musique, voilà, il va y avoir la compilation Gold.
Tout le monde l'a eu, ça, vous avez raison, hein.
Et oui, cette compilation, elle a marqué des générations de gens qui ne connaissaient pas vraiment ABBA et puis qui ont découvert d'un coup toutes les chansons célèbres de ABBA sur cette compilation qui s'est vendue extrêmement bien. Mmh. Et puis il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui un retour de hype, vous voyez, c'est-à-dire la mode les projecteurs se sont de nouveau tournés vers ABBA et puis ils n'étaient plus ringards. D'un coup, ils ont été un groupe ancien qu'on a envie de redécouvrir.
Grâce à Mamma Mia aussi.
Alors, Mamma Mia, la comédie musicale...
99,
est arrivée plus tard, à la fin de la décennie. Et puis ensuite, il y a eu le film Mamma Mia, qui a fait un carton. Et depuis, le succès ne s'est jamais démenti. ABBA est resté au top jusqu'à son retour en 2021.
Et est-ce que, pour conclure, entre guillemets, est-ce qu'on peut espérer peut-être... Alors, ça tombe comme un peu un cheveu sous la soupe, hein, mais allons-y. Est-ce qu'on peut espérer un 10e album? Il y a eu l'album Voyage, avec de très jolies chansons aussi, plus modernes. J'ai eu l'impression, moi, je l'ai déjà écouté une ou deux fois, plus douce. Est-ce qu'on peut espérer un 10e album studio d'ABBA, aujourd'hui?
Bien qu'ils s'en défendent, moi, je suis convaincu qu'on les reverra tôt ou tard et qu'on les entendra, surtout tôt ou tard. Parce que toujours, vous voyez, c'est-à-dire que ils travaillent, ils sont toujours amis tous les quatre, ils n'ont toujours pas décrété la fin du groupe. Ils ne voulaient pas partir en tournée, c'est pour ça qu'ils ont fait leur spectacle avec des projections qui a cartonné à Londres. Mais je pense qu'on pourrait tout à fait du jour au lendemain apprendre qu'ils sont retournés en studio et qu'ils ont enregistré quelques chansons. Cela m'étonnerait pas du tout. Dans ces cas-là, il faudra faire une nouvelle édition du livre qui sera encore plus gros.
Et voilà. Allez, on va le remontrer quand même à la caméra. Vraiment ce beau pavé, c'est magnifique, vous allez passer un excellent moment. Allez, il y a des photos là, je les vois, I am a marionnette, magnifique, superstar, enfin, ah bah c'est la même photo que je vous ai montré tout à l'heure, ça là, attendez, voilà. Avec l'album que j'aimais bien, regardez-moi ça, c'est aux éditions EPA, Benoît Clerc, ABBA, la totale. Il nous faudrait 3 heures hein, pour parler de toutes les chansons d'ABBA.
Absolument.
Bon, un jour on se fera ça. Voilà, ABBA la totale aux éditions EPA. Merci beaucoup Benoît d'être venu, de nous avoir parlé d'ABBA, de ce groupe magnifique et qui j'espère sera encore écouté dans 10, 20, 30, 40 ans.
Merci à vous Gilles.
Et puis à très bientôt sur Mélodie.
Avec plaisir.
Ce programme est disponible en podcast, sur YouTube, sur notre site melodie.radio et puis voilà, sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.